va avoir du fun. Ça commence à 14h. Soyez-y.
Bye. Bye.
Boulevard. Québec. 102.1. Ville de radio. À l'écoute des citoyens. Notre programmation 100% parlée en semaine est là pour vous. 6h, Marceau le matin avec Yann Marceau, Max Larouche et Jeff Fortin. 7h55, le Pit Stop avec Denis Gravel. 10h, le Point de Max, maintenant en duo avec Catherine Bachand. Le midi, on jase avec Jeff Fortin, Pascal CV et le Caucus avec Antonin Iaccarini. 14h, Gravel dans le retour avec Denis Gravel, Véronique Bergeron et Audrey Pinchot. 18h, Marceau le soir, Boulevard 102.1. Maintenant 100% parlé en semaine. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Mon invité de ce soir, Rémi Villemur, est avec nous pour plus de 60 minutes. Il est animateur au 99.5 Montréal et les collaborateurs aussi à Boulevard 102 à Québec. Salut Rémi!
Salut Yannick, on s'est jamais rencontrés.
Non, c'est la première fois. On n'a jamais été dans le même studio. J'entends quelquefois tes chroniques, bien entendu. J'écoute ton show à Montréal puisque je suis dans l'émission d'après aussi. Très enchanté de te rencontrer. Tu es le fils de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, René Villemur, qui est éthicien, qui est un philosophe, René Villemur. Et ça me surprend pas de voir la carrière que tu as, le sérieux que tu y mets, l'intelligence que tu mets aussi dans cette carrière-là, tes choix de sujets. Tu as du père dans le nez, là.
Ouais, ben moi, ça me ferait plaisir d'entendre ça, d'autant plus que mon père... C'est une histoire, tu sais, on dit, il y a une expression amour-haine, c'est pas ça, mais c'est amour-conflit. Mon père, ça a souvent été, il a souvent fallu qu'il m'apprenne à vivre parce qu'il me trouvait trop intense, il trouvait que je manquais de finesse, il trouvait que, avant même que je commence à faire de la radio, là, tu sais, ouais. Quand j'avais 17-18 ans puis que j'habitais avec lui, je suis allé vivre 2 ans avec lui à Québec. Je pense qu'il mesurait bien qu'il y avait quelque chose comme un potentiel, mais j'avais une tentation à l'autodestruction. Fait qu'il était comme, fais attention avec un char de même qui va vite de même, parce que ça peut rentrer dans un mur. Fait que je pense que de voir peut-être, non pas que je m'assagis, puis que je m'assouplis, puis que je deviens plus... Non, c'est juste de voir peut-être que je prends plus de souffle, plus de respiration, puis que je prends plus de temps pour réfléchir. Je pense que ça y fait plaisir de voir que je m'en vais dans cette direction. Ouais.
C'est-tu compliqué d'avoir un père philosophe et éthicien?
Ben, écoute,
des fois, t'aurais peut-être souhaité avoir un père garagiste, là.
Non, j'ai eu le meilleur père, puis j'ai encore le meilleur père, mais c'est une bonne question parce que mon père, quand on allait à l'école secondaire,
ouais,
même à l'école primaire, puis qu'on revenait à la maison, puis qu'on s'assoyait autour de la table, il nous disait « Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? » Puis, tu sais, des fois, on était écœurés, tu sais, on voulait juste aller jouer dehors, on voulait juste aller jouer au Game Boy. Puis il disait, si vous n'avez rien appris, vous allez prendre un dictionnaire, vous allez l'ouvrir, puis vous allez lire la définition à table, la définition du mot, puis vous allez me parler de ce mot-là. Et puis tu sais, c'est drôle parce que il sait, j'y ai déjà dit, là, mais ça nous a vraiment énervés pendant longtemps. Tu sais, mon père, à Noël, c'était des livres et juste des livres. Quand on allait dans la famille, une grosse famille du côté de ma mère, lui, il était le parrain, il donnait des livres et juste des livres aux gens, puis nous, on recevait des affaires peut-être plus ludique, peut-être plus le fun, finalement, ouais. le jeu NHL, des affaires comme ça. Puis sur le coup, on était même gênés des fois. On regardait le cadeau que notre cousin recevait, puis on disait « Ah, ça va jaser, ça va dire quel cadeau de marde. » Puis avec le temps, j'ai tout compris. Ça, tu peux pas le réaliser quand tu as 10 ans que c'est précieux, ça vaut de l'or, parce qu'un jour, tu te ramasses, tu regardes ta bibliothèque, puis la moitié des livres que tu as là, c'est les livres que ton père t'a donné. Puis des livres que tu n'étais pas capable de lire à cet âge-là, là. Tu sais, c'est drôle, tu sais, on recevait des livres, puis on se disait, mais comment il peut même penser que je vais lire ça? J'ai 12 ans, c'est un livre de philo, je vais jamais lire ça. Mais non, mais je lis là, en ce moment. Fait que lui, je pense qu'il était plus à l'aise avec l'idée d'un père, d'un jeune homme qui deviendra un homme, peut-être, que d'un jeune homme qui est un jeune homme. Je pense qu'il, tu sais, il jouait pas au hockey avec moi dans la rue, là.
Ouais.
Mais il m'offrait des livres.
Non, mais je pense qu'il t'a grandement aidé à t'ouvrir parce que moi, j'écoute tes émissions. Puis ce qui me surprend, c'est que, entre autres à Montréal, à Québec, on l'entend souvent, ça, des gens qui invitent autant la gauche que la droite, des personnages qui sont des fois dans les extrêmes. Tu commences à le faire à Montréal depuis que tu es en onde et ça, moi, tu auras toujours mon respect de faire ça à Montréal. Il y a des animateurs de télé. Stéphane Bureau, qui avait invité un personnage controversé à une certaine époque pendant la pandémie et il avait été challengé par ses propres collègues qui trouvaient ça épouvantable qu'on invite un individu qui ne pensait pas comme 90% des gens du Québec. Que toi, tu le fasses, moi, je trouve que c'est une force de ton émission, puis je salue ça. Tu sais, moi, j'en ai pas d'axe gauche-droite. Parfois, je peux être à droite économique pour certains trucs. Parfois, je suis un peu plus du côté communautaire, puis on me considère comme étant à gauche. À Montréal, c'est souvent juste à gauche et on se reçoit en tant qu'amis à gauche. Au 99.5, la beauté de ça, c'est que vos patrons vous laissent une plateforme qui est quand même assez large.
Ah oui, puis honnêtement, je leur ai fait passer des tests. Là, à un moment donné, je me disais, il faut voir jusqu'où tu peux aller. Puis à un moment donné, il va avoir un nom. Puis le nom n'est pas encore arrivé. Puis j'ai pas l'intention de tomber dans la provocation. T'sais, J'ai reçu Jeff Fillion. Puis on m'a dit, go, t'sais, fais juste faire une entrevue normale, t'sais. Fais pas une entrevue complaisante, fais pas, parce que là, ça devient compliqué, mais t'sais, je sais pas de quoi les gens ont peur. Je sais pas de quoi les gens ont peur. C'est ça l'affaire, t'sais. Puis une conversation au Québec, c'est quand la dernière fois que ça a blessé, que ça a heurté quelqu'un physiquement, que ça a amené quelqu'un à se jeter en bas d'un pont? C'est jamais arrivé. Donc, je ne comprends pas d'où on part. T'sais, parce que s'il y avait un historique, s'il y avait quelque chose comme une époque pendant laquelle on avait été complaisant envers l'extrême-ci ou l'extrême-ça, puis ça avait mené à ci ou ça avait mené à ça, moi, je pourrais comprendre qu'aujourd'hui, on fasse attention. Parce que la dernière fois, ça s'est passé de même. Puis ça a commencé avec un gars, un petit blond, qui donnait la parole à tout le monde. Mais non, ça n'existe pas, ce moment-là. Puis l'avenir, je veux dire, c'est toujours bien probablement ce qu'on a déjà vécu puis qui va se reproduire un peu différemment. Je veux dire, c'est un peu ça aussi, étudier l'histoire, c'est comprendre que tout se répète à peu près sous une forme un peu pareille. Donc, je ne sais pas de quoi les gens ont peur. Puis, tu sais, tu parles de gauche puis de droite, tu dis, je ne sais pas si moi, toi, donc, je suis à gauche ou à droite. T'as-tu remarqué que c'est même plus une question d'idées? C'est peut-être même juste une question de comment tu t'exprimes. Parce que toi, Yannick, je t'écoute, puis probablement qu'il y a des gens qui te classent à droite, ne serait-ce que parce que tu parles d'une certaine façon. Tu vas direct au point, au lieu de prendre un certain détour, parce qu'à gauche, on essaie de ne pas heurter. Donc, souvent, dans le langage, ça s'entend qu'il y a la phrase de plus qui est peut-être la phrase de trop, puis on n'a pas compris finalement ce que la personne a dit parce qu'elle a voulu faire un détour par trois rivières, par deux montagnes, par trois pistoles, on est arrivé partout comme ça. Mais c'est juste dans la façon de s'exprimer. C'est rendu que d'aller peut-être plus droit au but, c'est d'être de droite. Ça en dit long sur ce que c'est pas la gauche et la droite et sur ce que c'est devenu et sur ce que ça n'a plus rien à apporter finalement conceptuellement en ce moment-là.
Qu'est-ce que tu crois? Pourquoi les gens restent campés dans leurs idées puis refusent systématiquement les opinions qui vont sens contraire? C'est des gens qui ont de gros billets, de ce que je comprends, là. Mais exemple, prenons Radio-Canada, prenons le 98.5 Montréal, prenons le 99.5 Montréal. C'est tous des individus qui sont différents. Mais tu te rends compte que dans une station de radio, la plupart des gens pensent pareil. Mais quand j'écoute le 99.5, quand j'écoute la radio de Québec, je me rends compte que des fois, entre l'animateur du matin, l'animatrice du midi puis l'animateur du soir, c'est complètement différent, les idées. Je trouve ça beau, moi, une belle diversité d'opinions qui peut aller au centre-gauche, centre-droit, on s'en fout. Les extrêmes, on n'a jamais aimé ça. Peut-être que ça prend des extrêmes, des fois, pour nous faire allumer sur certains trucs. Mais à Montréal, j'ai l'impression que si tu es t'es un animateur de centre-droit, que tu parles d'économie, que tu es à l'aise avec les chiffres, tu vas automatiquement te faire classer dans le rang des gens qui sont persona non grata dans la communauté.
Ben, il faut faire, je pense, une distinction entre le service public puis les radios privées ou les stations privées parce que, tu vois, concernant Radio-Canada, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du scandale. T'sais, le fait qu'il n'y ait pas des voix à droite ou qu'il n'y en ait pas davantage. Il y en a, nous dira-t-on, mais on se rend compte quand on étudie le profil de ceux qui sont à droite en ce moment à Radio-Canada que sont ces gens-là, ces personnes-là, 90% du temps des gens de centre-droit ou des gens qui sont, tu sais, une droite un peu molle, mais une droite qui est comme un peu complexée. On n'a pas de droite décomplexée alors qu'on a des gens à Radio-Canada qui sont littéralement d'une gauche, par exemple, qui ne se préoccupe pas des questions comptables, des questions économiques. J'ai déjà entendu un segment, je nommerai pas les gens parce que ça sert à rien, mais j'ai déjà entendu à Radio-Canada un animateur qui se spécialise en économie poser la question à une panéliste à savoir qu'est-ce qu'il fallait faire avec le déficit et la personne répondre, ben le déficit, moi je m'en fous. Tu dis, ben, on parle d'économie là. Je veux dire, il y a personne qui pourrait pouvoir dire ça, qu'on se fout du déficit, qu'on soit de gauche ou de droite. On parle d'économie. Le déficit, c'est comme une notion vraiment importante. T'sais. Mais on n'a pas l'équivalent à droite. Et je ne sais pas si je le souhaite. Peut-être qu'il faudrait qu'on aille moins loin à gauche pour qu'on n'ait pas besoin en retour d'avoir quelqu'un d'aussi loin à droite. Tu comprends, à Radio-Canada, dans les stations privées après, tu sais, moi, je peux pas porter de jugement. Je veux dire, s'il y a un auditoire. Une station privée a le mandat de leur joindre cet auditoire-là. T'sais, s'il y a des gens à droite, ben, peut-être qu'il faudrait une station à droite. C'est la logique du marché. Alors, il n'y a pas de, t'sais, il n'y a pas d'engagement de parité ou de possibilité que tout le monde puisse s'exprimer. Tu peux le faire et être. Et là, à ce moment-là, tu appartiens, je pense, à quelque chose, à un statut noble. T'sais, si tu crois que c'est important comme station privée, tu peux le faire, mais tu n'as pas besoin de le faire. C'est juste le service public qui s'est engagé à le faire. T'sais. Donc, pour moi, il y a une distinction à faire. T'sais. Mais moi, quand j'entends des gens dire, puis là, je sais que ça sera pris au sérieux par des gens et pas pris au sérieux par d'autres, puis c'est correct. T'sais. Mais quand j'entends des gens dire, Québécois, vous êtes à droite, je dis, OK,
Non.
c'est juste qu'il y a des gens à droite à Québécois, effectivement, mais il y a aussi, t'sais, Isabelle Maréchal. Yasmine Abdel-Fadel, qui est une fédéraliste qui
Ouais.
travaille pour une station qui appartient à un souverainiste. Il y a Tom Mulcair, il y a Gaétan Barrette. Tu sais, je pense que Québécois accomplit quelque chose de très rare et je pense que ça surprend des gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui appartiennent. Écoute, Madeleine Pilote-Côté, il faut lire ses chroniques le lundi dans le Journal de Montréal. Ce n'est pas une chroniqueuse de droite, là, Madeleine Pilote-Côté.
Et à
Elle est très
gauche.
à gauche. C'est correct. Okay? On lui offre la parole, on lui offre une voix. Il y a des chroniqueurs, d'autres chroniqueurs qui sont à gauche. Donc, ça, je pense, ça surprend et ça défait un peu l'espèce de logiciel qu'on a tous dans l'esprit. On se dit, ah, il y a la gauche ou il y a la droite. Et là, quand quelqu'un dit non, il y a la gauche et la droite, on fait, ah, OK, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut juste dire qu'il y a une conversation.
C'est comme si l'ordre était toujours établi d'avance, puis chez une certaine portion de la population, ben, si tu vas à l'encontre de cet ordre-là, tu étais automatiquement dans l'erreur. T'sais, moi, je ne sais pas, ça se peut que j'aie tort, Rémi, là, t'sais, ça se peut que j'aie tort. Des fois, ça m'arrive. Ça se peut que j'aie raison aussi. Des fois, ça m'arrive. J'essaie de l'expliquer à mes enfants aussi. T'sais. La vérité, elle peut être celle que vous ne pensiez pas, puis que là, maintenant, vous allez découvrir. Changer d'opinion, c'est possible. Mais pour certaines personnes, ils vont te voir comme un ennemi parce que tu ne penses pas comme eux. Mais on a chacun notre chemin de vie, là. On a chacun nos expériences personnelles qui font en sorte qu'on peut avoir une opinion X sur quelque chose, puis je peux accepter ton opinion Y sur le même sujet, tu sais, mais en autant qu'on s'accepte. Puis comment on bâtit une société? On ne bâtit pas une société avec les gens qui sont conformistes, qui sont toujours sur l'ordre établi, puis ben ça, c'est, écoute, là, on est rendu là, puis on ne se pose pas de questions, on va suivre le chemin qui est tracé, puis mais la société va évoluer avec des rebelles, avec des gens qui pensent en dehors de la marge. Tu sais, si les suffragettes n'avaient pas fait leur combat, là, à coup de « je mange des claques à la gueule de la part des messieurs, mais c'est pas grave, je continue à travailler fort pour qu'un jour la femme soit l'égale de l'homme et elle, droit de vote. » Sans les suffragettes, qui étaient des rebelles à l'époque, qui refusaient l'ordre établi, sans les suffragettes, les femmes seraient encore au fourneau, là.
Oui, puis aujourd'hui, on dirait que les rebelles, puis ça rentre pas dans la tête de certaines personnes qui se croient bien courageuses parce qu'elles sont à gauche. Tu es à gauche, donc tu es forcément contre le système, sauf que tu n'as pas remarqué quand même que la gauche est au pouvoir dans l'université, la gauche est au pouvoir dans les médias, dans la mesure où si tu enlèves une station de radio. À Québec ou deux, une à Montréal, ben, c'est à peu près centre-gauche ou gauche, à peu près partout, là, je veux dire. Il y a des gens qui refusent de croire que les rebelles sont peut-être rendus à droite. Ça se pourrait que les rebelles soient rendus à droite, ça. Puis ça défait un peu, ça encore une fois, ça défait le logiciel. Tu dis, ben non, un rebelle, c'est à gauche. Ben, ça dépend. Ça dépend. Un rebelle, il se bat contre le pouvoir. C'est ça,
Exact.
un rebelle. Si le pouvoir a changé, puis ça se peut qu'il ait changé de siège, ben le rebelle, lui, il est face à ce siège-là. T'sais. Donc, mais tu sais, moi, il y a un truc là, que je mets en application, puis je ne l'ai jamais nommé, mais je vais le faire, fait que je suis démasqué. Il y a un truc que je fais depuis quelques semaines, puis j'essaie de voir la réaction des gens. Essaye, Yannick, de le faire, ce truc-là, de t'excuser des fois, de dire je me suis trompé. Comme derrière un micro, là, t'animes ou tu chroniques, puis tu dis hey, hier, j'ai dit quelque chose, là, puis finalement, j'ai changé d'avis, je suis rentré chez nous, là, puis j'ai parlé avec du monde, puis je dis pas que j'ai mal travaillé, c'est juste que, tu sais, parce que tout le monde fonctionne de même. Tout le monde fonctionne de même, sauf apparemment les gens qui ont un micro. Eux autres, ils se trompent jamais. Mais la vérité, c'est qu'ils se trompent des fois, mais qu'ils le disent pas. Parce que s'ils disent, ils ont peur d'être pris en défaut, d'être pris moins au sérieux. Mais moi, je pense que c'est le contraire. Je pense que quand c'est quand tu es encore plus humain que les gens te font plus confiance. Parce qu'il n'y a pas de raison que quelqu'un derrière un micro ne change jamais d'opinion. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Il y a des politiciens qui changent d'opinion. Pourquoi quelqu'un derrière un micro ne changerait pas d'opinion? Il n'y a pas de raison que quelqu'un derrière un micro ne se trompe jamais. Il y a des scientifiques qui se trompent. Il y a des scientifiques qui se contredisent. Je veux dire, je prends ça au sérieux ce qu'on fait, mais on ne fait pas de la science, là. Donc, tu sais, moi, j'essaie de faire ça, mais comme je te dis, je ne le disais pas, le truc. Puis, des fois, je le vois dans la face du monde, ils sont comme, OK, je ne sais pas quoi faire parce que je serais tenté, tu sais, comme contradicteur, de dire, ah, tu t'es trompé, mais en même temps, il vient de je sais pas,
Il est
de
humain.
révéler une part. Ouais, il vient de révéler une part
Rémi est
d'humanité.
humain.
Ben ouais, Rémi, il vient de dire, tu sais, qu'il est comme n'importe qui, fait que je vais être obligé d'applaudir. Donc, ça, c'est merveilleux, ça. Puis je le fais en espérant que d'autres le fassent parce qu'on est tous des humains. Puis on apprend. Puis le fait de garder une opinion toute sa vie, une opinion très précise toute sa vie, bien, ça peut dénoter, quand ce n'est pas une conviction profonde, là, ça peut dénoter une certaine dose d'obstination, puis de tête enflée. Puis j'espère qu'on ne veut pas faire ça.
Si tu as la même opinion toute ta vie, c'est pas un signe d'évolution, là. C'est
À
vraiment
moins que ce
pas.
soit une conviction, à moins que ce soit une conviction. Mais tu sais, une conviction, même une conviction, ça peut être perturbé. Même
Ouais.
une conviction, ça peut être ébranlé.
T'sais, on parlait de la gauche, puis on parlait de la droite. Pensons à Bernard Drinville. Je vais donner l'exemple de Bernard Drinville parce que moi, ça m'a frappé. Bernard Drinville a fait une carrière comme journaliste à gauche, est devenu politicien pour le Parti québécois. Il était à gauche. Il a été embauché dans des stations de radio parce qu'il était à gauche. On le mettait avec, comment il s'appelle, l'antéchrist à Montréal, Éric Duhaime. Donc, on mettait Bernard Drinville et l'antéchrist Éric Duhaime. Bernard Drinville était à gauche, Éric Duhaime était de centre-droit. Et là, on les faisait travailler ensemble. Et là, tout d'un coup, il est retourné en politique pour la coalition Avenir Québec. Il est encore à gauche, on l'entendait parler à gauche. Et là, tout d'un coup, la fameuse fenêtre d'Overton s'est déplacée et s'est plus rendu un cancer généralisé de dire « Hey, moi, je suis de droite économique. » Et Bernard Drinville s'en est rendu compte, puis il a dit « Comment je peux me défaire de la coalition Avenir Québec? Comment je peux être différent de Christine Fréchette? » Ah, c'est en disant que je suis maintenant de droite économique. La plupart des gens avec leur propre argent sont de droite économique. C'est bien rare qu'on va voir les multimillionnaires dire « Moi, je suis de gauche », mais concrètement, quand on analyse leur comptabilité, on se rend compte qu'ils essayent de faire le plus possible pour payer leur juste part d'impôts, mais pas trop. Qu'est-ce qui fait en sorte que cette fameuse fenêtre d'Overton-là, dans les dernières années, est passé de on n'a pas le droit de dire qu'on est à droite à c'est une nouvelle mode maintenant, on est de centre-droit. Parce que tu vas voir, la fenêtre d'Overton, elle se déplace. Là, des fois, on dit hey, on parle pas d'avortement pendant 5 ans. Puis là, tout d'un coup, la fenêtre d'Overton arrive. Puis là, tout le monde parle d'avortement. Puis là, c'est-tu bon l'avortement? C'est-tu pas bon l'avortement? Qui s'oppose à l'avortement? Est-ce qu'on devrait légiférer l'avortement? Est-ce qu'on devrait le mettre dans notre constitution? C'est ça la fenêtre d'Overton. Mais moi, c'est plus pour la droite économique. Qu'est-ce qui fait qu'elle s'est déplacée? C'est qu'on est un peu plus rendu dans la misère au niveau de l'économie?
Ben, c'est sûr que ça fait partie de l'explication. C'est une bonne question. Je pense que ça passe aussi par les jeunes. Éric Duhaime dit un truc. On parlait de logiciel tantôt. On disait que c'est difficile d'accepter pour certaines personnes que les rebelles sont peut-être rendus à droite. Il y a peut-être une autre affaire qui est difficile d'accepter, c'est que les jeunes sont rendus de plus en plus à droite sur le plan économique. Ça,
Oh.
Éric Duhaime dit. Non, mais Éric Duhaime dit, venez à un de mes congrès.
Ouais.
Regardez l'âge du monde dans la
Ouais.
salle. Des cheveux blancs, il n'y en a pas. C'est quasiment rien que des jeunes. Puis c'est un parti qui vend beaucoup de cartes. Donc il dit, il y a des jeunes. Il y a des jeunes. C'est des jeunes, là. C'est pas des vieux riches qui veulent garder leur argent dans leur gros sac en arrière de l'épaule, comme le Père Noël. Non, 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 non. Ce sont des jeunes. Donc, peut-être que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des jeunes qui ont commencé à se chercher du travail, qui ont obtenu des jobs au salaire minimum, puis qui se sont dit, attends une minute, là, il me semble que ça, je ne suis pas capable d'acheter quoi que ce soit. Qui en ont parlé à leurs parents, qui leur ont d'abord dit, ouais, c'est difficile pour tout le monde, arrête de chialer, continue de travailler. À un moment donné, le jeune a dit, ouais, mais je te le dis, papa, juste repense-y 2 secondes, c'est vraiment difficile. Puis je regarde les prix des maisons, ça va être difficile. Puis là, les parents, peut-être, se sont dit, attends une minute, mais c'est pas fou. C'est pas fou. Mais peut-être que ces parents-là voteront pas du M, mais auraient voté peut-être pour un Drainville, tu sais, qui est une autre génération, mais qui avait des idées comme ça. Moi, je pense que c'est passé en bonne partie par les jeunes, parce que les jeunes regardent le coût de la vie, puis ils se disent, ça, c'est plus censé être, ça semble, on dirait pas que ça va être agréable, en fait. On dirait pas que ça va être une ville fun. On dirait pas qu'on va mettre, puis tu sais, même, il y a des gens autour de moi qui gagnent 120, 130, 140 000, des bons salaires, là, OK, puis qui ont mon âge à peu près. Puis il dit, c'est tough, là. C'est tough quand même, là, pour de vrai, là. Tu sais, tu te fais enlever la moitié en impôts. Tu sais, t'arrives à l'épicerie, tu checkes la facture, tu dis, sacrément, c'est cher, Colin, pour un sac d'avocat, 8 $ pour un sac d'avocat. On me dit que c'est bon, des avocats dans la vie. On me dit que c'est l'aliment parfait. Donc, ça commence à se répandre, ça. C'est peut-être aussi que, des fois, pour comprendre un phénomène, il faut sortir de l'idée que il y a un malin quelque part qui convainc des gens de penser. Non, c'est peut-être le réel, simplement. Le réel a rattrapé certaines promesses, certains modèles aussi qu'on nous a vendus comme les seuls. C'est moi, le modèle québécois, je l'ai défendu aussi longtemps qu'il inspirait des gens dans le monde entier. Quand j'entendais parler de gens qui disaient, hey, le modèle québécois, quand je voyageais, puis qu'on me disait, ah oui, c'est vous, ça, les Québécois, c'est vous qui avez fait ça, là, je me disais, waouh! Pourquoi ne pas, tu sais, comment je pourrais ne pas en être fier? Mais à partir du moment où je me suis rendu compte que on était rendu davantage à vouloir s'inspirer des autres parce que ce qu'on avait créé inspirait de moins en moins, je ne me suis pas mis à avoir moins confiance en nous. Je me rappellerai toujours qu'on a été aussi ces gens-là au fil de l'histoire qui ont inspiré les autres, mais je me suis dit peut-être que c'est le moment maintenant d'inspirer les autres une deuxième fois. Puis on ne le fera pas à partir d'un modèle qui n'inspire plus. On va le faire à partir d'un nouveau modèle. Puis c'est peut-être pour ça qu'on parle de plus en plus d'une deuxième révolution tranquille. D'une révolution tranquille qui va peut-être, et ça aussi ça dérange, se faire à droite. Ou en tout cas se faire un peu plus à droite.
OK. Est-ce que ça va être possible de le faire en immigration, d'être un peu plus adroit? Parce que quand les gens disent, parce que moi je suis pro-immigration, mais une immigration qui est contrôlée, il faut être capable de loger ces gens-là, il faut être capable de leur trouver des emplois, il faut être capable d'avoir des garderies pour ces gens-là, faut être capable d'avoir des écoles pour ces gens-là. Quand on parle d'immigration contrôlée, automatiquement, c'est comme si on sonnait comme des racistes, là. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, qui sont pro-immigration, coûte que coûte. Si on arrive avec des arguments de ça nous prend un chiffre bien précis, puis il faut être capable d'inclure ces gens-là dans notre belle société pour qu'ils puissent participer convenablement, puis qu'il n'y ait pas de frustration d'être venu ici, on passe pour les méchants.
Oui, mais en fait, je pense qu'il faut revenir à la base. C'est quoi l'immigration? L'immigration, c'est, tu es dans une société, il te manque de la main-d'œuvre, OK? Il te manque quelque chose. Tu vas chercher des gens pour t'aider. C'est ça, l'immigration. Ça a toujours été ça. Si on revient 200 ans en arrière, là, on voulait faire le canal de la Chine à Montréal. On est au début du 19e siècle. On veut creuser cette affaire-là. On demande aux Canadiens français de le faire. Écoute, je nous aime, là, mais on n'était pas assez tough. On ne voulait pas le faire. Fait qu'on s'est dit, ça va nous prendre des ouvriers pour le faire. On est allé chercher les plus toughs au monde. C'était qui? C'était les Irlandais. Ils sont venus, ils ont creusé au pic et à la pelle le canal de la Chine 6 jours par semaine, du matin jusqu'au soir. Ils sont restés. C'est ça, l'immigration. L'immigration, c'est, tu as une société, on est tous là. Ah, il nous manque de gens pour torcher les vieux. Ça vous tente-tu, Kevin, Sophie, de faire ça? Non, nous autres, on a 2 bacs, on a une maîtrise en administration, on fera jamais ça. OK. Bon, on va aller chercher des gens qui ont le courage de faire ça. L'immigration, c'est pas on fait rentrer des gens, puis après on vous trouve du travail, après on vous trouve un logement. Pour moi, l'immigration contrôlée, c'est un pléonasme. L'immigration, ça devrait être contrôlé. Ça devrait être, on a besoin d'un poste, on va chercher quelqu'un. Vous m'entendrez jamais, 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 jamais. Et si je l'ai déjà dit, alors je m'engage maintenant pour l'avenir. Vous m'entendrez jamais dire que quelqu'un qu'on est allé chercher pour une job, qu'on n'a jamais été capable de combler avec le monde qui était déjà là, on devrait le retourner chez lui.
Mais non.
Moi, je pense pas. Je pense pas. Écoute, quand j'entends du monde dire il y a trop d'immigrants dans les champs. Trop d'immigrants dans les champs. Êtes-vous cinglé? Êtes-vous cinglé? Je veux dire, voulez-vous qu'on achète tous nos fruits et nos légumes aux États-Unis ou vous voulez qu'on continue de récolter le fruit de nos sols? Est-ce qu'il y a des Canadiens français, des Québécois d'ascendance canadienne-française qui veulent aller se mettre les deux pieds dans la terre? Non. OK. Est-ce qu'on a essayé d'augmenter le salaire? L'agriculteur nous dit, oui, j'ai tout essayé. Là, je suis rendu de bouffer dans ma marge, j'ai plus de marge. OK, ben écoute, on va aller chercher du monde. Moi, j'ai aucun problème avec ça. J'ai aucun problème avec ça. Après, il y a un engagement, et ça, je pense que c'est le minimum. C'est le minimum que les immigrants doivent faire, c'est apprendre la langue, s'intégrer. On a longtemps pensé que si on allait chercher des immigrants originaires de l'Afrique, originaires du Maghreb, ben, la langue, c'était réglé. Il restait juste l'enjeu de l'intégration, ben on s'est trompé. On s'est trompé parce que l'enjeu de l'intégration était peut-être plus difficile qu'avec un Chinois, peut-être plus difficile qu'avec un Philippin, peut-être plus difficile qu'avec quelqu'un, je ne sais pas, un Indien. Peut-être que c'était plus difficile parce que ben, le rapport aux femmes n'est pas le même,
Ouais.
par
On
rapport
le
le
voit
rapport à
actuellement avec
l'autorité n'est
l'armée
pas le même.
canadienne. Avec l'armée canadienne, on a procédé à une vague d'embauche, puis il y a des gens issus de certaines communautés qui se sont ramassés dans l'armée puis qui devaient être sous commandement d'une femme. Puis il y a des gens qui étaient mécontents de ça, là.
Ben oui, tout à fait. Donc ça, si on s'en cache bien à l'armée, on sort pas, on voit bien que ça déplaît. Mais je pense que tu sais,
Mais
il faut.
comment faire passer tes idées ou les idées des politiciens qui disent, hey, l'immigration, on en a de besoin, mais ça prend un chiffre. Il faut que ce soit basé sur un chiffre qui va faire en sorte que nous, avec ce chiffre-là, on est capable de leur donner des jobs, on est capable de les loger, on est capable de les aider pour les garderies puis les écoles, sans se faire traiter de raciste ou d'intolérant. Parce que c'est ce qui arrive, là, d'une certaine catégorie de personnes qui regardent les politiciens aller, comme Paul Saint-Pierre Plamondon. Même François Legault a été qualifié de raciste, là, parce qu'il parlait d'un chiffre. On a atteint la capacité d'accueillir ces gens-là. On en a reçu trop dans les dernières années. On a une problématique. Ça nous prend un chiffre. C'est fait qualifier de raciste. Ça doit être tough pour un politicien de se faire qualifier de cette façon-là, là.
Oui, mais tu auras remarqué, Yannick, que c'est en train de changer, si ça n'a pas déjà changé. Tu parlais de fenêtre d'Overton tantôt. Tu sais, c'est rendu que le Parti conservateur à Ottawa parle d'immigration, là, puis parle d'intégration. Puis moi, on me dit qu'il y a beaucoup de gens de la CAQ qui sont allés travailler pour le Parti conservateur du Canada. Donc, ceci explique peut-être cela, là. Il y a des gens qui ont compris ce qui s'est passé à Québec, puis qui amènent cette expérience-là. Puis cette façon de raisonner-là à Ottawa. À Québec, en ce moment, à part Québec solidaire, qui a quand même, aux dernières élections, milité pour une baisse des seuils, je le précise quand même, ben, il n'y a plus. Ben, tu sais, Charles Milliard est un peu ambigu là-dessus, est ambigu sur à peu près tout aussi, là. Mais je pense que ça a changé. Ce que j'essaie de dire, c'est que le discours sur l'immigration a changé. Je pense qu'on entend de moins en moins l'épithète raciste au sujet de quelqu'un qui dit, ben, je pense que. Il faut revenir à la base. Une immigration, c'est contrôlé. Une immigration, ça consiste à quoi? Un poste qu'on a tout essayé de combler ici, qu'on n'est pas capable, donc on va chercher quelqu'un. Évidemment, on lui donne le droit d'amener sa famille avec lui. On respecte certaines règles, évidemment, de sécurité et de longévité, bon, pour que ça puisse se produire. Si on revient à ça, je pense qu'on est pas mal en train de le faire. T'sais. Le chiffre dont tu parles, c'est parce que ça devrait toujours être ça. Je veux dire, si tu me suis, là, c'est. Si on dit 50 000, c'est parce qu'il y a 50 000 postes à combler. C'est tout, là. C'est pour ça que je ne déteste pas l'idée d'un milliard qui dit, moi, je veux rencontrer les entrepreneurs, moi, je veux rencontrer les gens des affaires, les milieux des affaires. Si ça veut vraiment dire, à chaque fois que vous me dites que vous avez besoin de quelqu'un, on va l'inscrire sur la fiche, puis on va savoir où est-ce que cette personne-là va, puis on va aller la recruter à l'étranger, puis on va la faire venir ici. Moi, j'ai rien contre cette idée-là. Mais il faut que les entrepreneurs fassent aussi un effort, tu sais. Moi, un agriculteur qui me dit, hey, je veux dire, je paye 20 $ le monde, OK, pour qu'ils viennent dans mon champ, puis ils ne viennent pas, lui, il a fait son effort, d'accord? Sauf que le gars au Tim Hortons, qui paye au salaire minimum, puis qui n'est pas capable d'engager, puis qui me dit, ben, je l'ai fait mon effort, non, tu n'as pas fait ton effort. Tu n'as pas fait ton effort. Le salaire minimum, ce n'est pas un effort. C'est le minimum. Puis on va plus loin que ça. Mais c'est en train de changer. C'est en train de changer. Ce n'est plus la même. C'est allé vite aussi. Ça a pris 5 ans. Ça a peut-être pris l'élection de Trump aussi, peut-être, pour qu'on regarde ce qui se passe à l'étranger, puis qu'on se dise, ouais, finalement, on s'est fait traiter de raciste pendant des années, mais en voilà un, quelqu'un, si vous voulez traiter quelqu'un de raciste, concentrez-vous sur le bonhomme en bas, parce que nous autres, finalement, on n'est pas ben, on n'est pas si raciste que ça.
Non, et d'une terre d'accueil. Je suis curieux, tu as parlé du modèle québécois tantôt, puis ça, c'est le genre de choses que j'aborde souvent dans mon émission. Moi, un modèle, c'est quelque chose qu'on peut reproduire. Donc, exemple, le modèle québécois en santé, est-ce qu'on peut le reproduire dans un autre pays puis croire que ça va bien? Non, c'est pas, le modèle en santé n'existe pas. Quels sont les modèles, quand tu t'es promené à travers le monde, là, quels sont quel est le modèle québécois que tu dis, hey, moi, je pourrais amener ça ici puis ça contribuerait à améliorer la société là-bas?
Ben, tu vois, regarde, il faut revenir à chaque fois aux mots. On parlait de mon père tantôt, peut-être lui, il nous a peut-être enseigné ça à tous les deux.
Oui.
Un modèle, c'est exactement ça. Non, mais c'est vrai, le modèle québécois, puis là, non, un modèle, comme tu l'as dit, c'est un truc qu'on peut répéter.
Exact.
Ça veut dire que si on n'inspire plus les gens, ce qu'on a, c'est pas un modèle. C'est pas ça. Il n'y a personne qui fait un calque là-dessus. Ben, écoute, sur la question, par exemple, de la santé, moi, ça a pris un certain moment avant que ça rentre dans ma tête. Et maintenant, c'est dans ma tête. Il y a des pays. Notamment la France, l'Allemagne, certains pays en Scandinavie, qui, sur le modèle de la santé, font un partenariat entre l'État et le secteur privé. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas dans l'idéologie. On ne dit pas maintenant, il n'y a plus d'État en santé, prenez-vous des assurances, puis ça va vous coûter, si vous n'avez pas, ça va vous coûter 500 000 piastres pour vous faire un plâtre sur la jambe. Non, non, c'est pas ça. D'ailleurs, ça n'existe nulle part, cette affaire-là. Hein. Ça aussi, c'est un gros fantôme qu'on nous agite. Il n'y a aucun pays dans le monde où ça fonctionne de même, à ma connaissance. Là-bas, ce qu'on fait, c'est, tu le connais, là, puis les auditeurs le connaissent, mais pour ceux qui l'ignorent, je vais l'expliquer, c'est que l'État s'occupe des soins, garantit des soins gratuits, en échange d'impôts, évidemment. Et s'il n'est pas capable de vous offrir des services, on vous envoie au privé, là où vous ne payez pas, là où vous êtes remboursé par l'État, ou les services sont remboursés, sont facturés à l'État par le privé, et donc remboursés aux citoyens qui ne payent pas. Donc, ça ne change rien, en fait. Ça
Non.
ne change absolument rien. C'est juste que l'État accepte qu'il n'est peut-être pas capable de faire face à tous les enjeux de la modernité. Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de monde soudainement? Est-ce que c'est parce qu'on paye trop cher les gens? Puis, en réalité, je veux dire, je veux d'un endroit dans le monde où le Québec, en l'occurrence, où les gens sont bien payés, mais ça ne fonctionne pas avec la part d'impôt. On fait un deal avec le privé. Ça veut dire que tu acceptes que l'idéologie, tu la mets de côté. Ça veut dire que tu acceptes l'idée que tout ne passe pas par l'État. C'est un coup dur, hein? Ça fait mal d'accepter ça, peut-être, parce que la grande fierté de la Révolution tranquille, c'est d'avoir bâti un État, puis d'être sorti de ce qu'on appelle encore, à tort, la grande noirceur. Mais on est rendu ailleurs. Je veux dire, c'est. Le monde avance, ça avance. Puis encore une fois, je reviens à ça. Qui nous dit tout le temps qu'il faut accepter la modernité, qu'il faut accepter que le monde change, qu'il faut arrêter de regarder par en arrière? C'est souvent des gens à gauche qui nous disent ça, qui disent aux gens de droite, arrêtez, les conservateurs, de vous rester. Ouais, ben là, il y a des gens à droite qui disent aux gens de gauche, arrêtez de regarder en arrière, puis regardez aussi par en avant. C'est frappant comment le monde change.
Oui, gérer un hôpital, je pense que les gens qui travaillent dans le public sont capables de le faire, mais on pourrait laisser la place aussi aux gens qui sont dans le privé. Si on laissait la chance aux entreprises privées de gérer les hôpitaux, de les mettre en compétition les uns avec les autres, de laisser les employés au public à l'intérieur de ces dits hôpitaux-là, mais que ce soit géré par le privé. La compétition, ça n'a jamais fait de tort, là. Puis advenant le cas où il y a des hôpitaux qui sont moins performants, ben c'est un peu moins gênant de remplacer la haute direction parce que c'est une entreprise privée que de remplacer un fonctionnaire qui s'est fait promettre une job à vie à cet endroit-là, même s'il ne fait pas le travail.
Oui, puis tu sais, il y a un truc qui nous fait tous peur, puis les gens qui nous écoutent peuvent fermer les yeux puis se rappeler de ce moment-là dans leur vie. Quand tu fais face, quand ta vie se déroule comme un long fleuve tranquille, puis qu'à un moment donné, tu rencontres un défi, que ce soit une rupture, une perte d'emploi, la mort de quelqu'un, souvent, là, c'est un coup dur, puis après, il arrive quelque chose de magnifique parce que le cours de ton existence est interrompu, puis ça rebondit, puis ça s'en va ailleurs. Ben, c'est peut-être un peu ça qu'on a besoin au Québec. On a besoin d'un choc. On a besoin d'un choc, puis ça fait peur à beaucoup de gens parce qu'on se dit, ouais, mais attends une minute, qu'est-ce qui pourrait se passer? Ben, il pourrait se passer quelque chose de magnifique. C'est ça qui pourrait se passer. On pourrait se donner un coup de pied dans le cul. On pourrait se réorienter. On pourrait se donner une bonne tape dans le dos, là, puis en mode, regarde, on le voit bien là, que ça ne fonctionne pas. On ne va quand même pas s'enliser collectivement, là. On ne va quand même pas accepter de foncer direct dans le mur, ça fait mal en tabarnouche, là, foncer dans un mur. On change-tu de direction? On change-tu de capitaine? On change-tu de bolide? On change-tu de moteur? On fait-tu quelque chose? Ça fait peur parce que c'est du changement. Le changement, ça fait peur. Mais du changement émerge justement le changement, le nouveau. Puis moi, je refuse catégoriquement de penser que la solution se trouve à l'intérieur d'un modèle qui n'est plus un modèle. C'est impossible. On a fait le tour, là. Il y a des générations qui se sont essayées. Il y a eu des porte-paroles en matière syndicale, en matière politique, économique, qui nous ont dit que la solution était à l'intérieur et ils se sont trompés. C'est pas un échec cuisant, là, mais ils se sont trompés là-dessus. Donc, moi, notre génération, la mienne, les trentenaires, les vingtenaires, je veux dire, on n'acceptera pas ça. On va aller ailleurs. On va essayer quelque chose. Puis on va miser sur nous. Parce que ce qui a rendu possible la Révolution tranquille, c'est toujours bien encore présent en nous, là. C'est-à-dire, le peuple n'a pas changé, là. C'est nous autres. C'est les coureurs des bois, c'est les ingénieux, c'est les battants, c'est des compétitifs, c'est des rêveurs. On est partout dans le monde. On a même envoyé quelqu'un, hey, Farah Alibali, là, sur Mars avec son petit robot, là. C'est nous, ça. Tu sais, je veux dire, on est capable de faire ça, mais il faut juste accepter qu'on va changer de crayon puis on va changer de papier.
Rémi Villemur, est-ce que les syndicats sont responsables de l'immobilisme au Québec?
Ben, ils sont en partie responsables, tu sais, mais moi, je refuse de dire que ce sont eux les seuls et uniques responsables. Puis, tu sais, je rencontre beaucoup, je les ai tous rencontrés désormais, là, les chefs de centrales syndicales, en entrevue, tu leur as parlé aussi. Tu sais, c'est des bonnes personnes qui représentent des centaines de milliers de personnes. Tu sais, je comprends leur position. Je comprends. Tu sais, si tu as des centaines de milliers de personnes qui disent, regarde, là, nous autres, on paye, là, fait que augmente nos salaires. Je peux pas les blâmer, eux autres, de faire leur travail. Mais le problème, c'est que je questionne leur amour pour le Québec. Parce que le Québec, c'est pas juste les gens que tu représentes. C'est tout ce qui reste après, t'sais. Puis c'est surtout les jeunes, qui n'ont pas encore de carte de syndicat. C'est les petits jeunes qu'on voit dans la rue là, avec le petit cordon à la garderie, là. C'est eux, là. Eux autres, est-ce que tu les aimes à un point tel que tu pourrais dire à tes membres, je pense que ça ne sera pas bon pour eux. En fait, ça ne sera pas bon pour vos enfants. C'est ça que je questionne. Puis je le questionne. Je ne questionne pas juste l'amour des chefs des centrales syndicales pour les enfants. Je questionne l'amour des personnes âgées pour leurs enfants. Tu sais, quand j'entends, par exemple, ça a vraiment roulé, ce moment-là, à la radio, à la télé, je pense que ça avait été capturé par Kevin Crane Desmarais d'LCN, mais c'est une personne âgée qui dit « Je préfère une dette que Poilievre. » Là, tu te dis, regarde, laissons faire Poilievre, là. Tu as le droit de ne pas vouloir voter pour Poilievre. Je n'ai pas voté pour Poilievre. Mais tu te dis « Je préfère une dette. » OK? Donc, la madame à 80 ans, là, elle dit « Je préfère une dette que quelqu'un qui me dit... Moi, la dette, c'est plus, je veux m'y attaquer davantage que mon adversaire, en l'occurrence Carney. Mais, tu sais, j'ai peut-être un style qui te fait peur un peu. Moi, pour moi, ça, là, c'est la preuve que cette personne-là aime plus sa personne que le Québec. Et ça, je me méfie de ces gens-là. Hein? Je veux dire, on a tous une personne qui est très importante, mais il faudrait au moins qu'elle arrive en deuxième, cette personne-là, parce que le sort de tous les gens autour de nous, je vous l'annonce, tout le monde, là, c'est plus important que le vôtre. Ouais,
Donc,
ben
selon toi, les syndicats ne sont pas responsables en entièreté là, de l'immobilisme au Québec.
oui.
Est-ce qu'on pourrait peut-être un jour abolir la fameuse formule REN? Donc, ce qui fait en sorte que quand quelqu'un rentre dans une entreprise, après un certain temps donné, automatiquement, elle tombe syndiquée. Est-ce qu'on pourrait abolir ça? Le libre choix, quelqu'un qui veut avoir son propre salaire, négocier son propre salaire, à même une entreprise où il y a un gros syndicat qui est déjà intégré.
Ben, si c'est la volonté des syndiqués, moi je ne vois pas comment un syndicat s'opposerait à ça et pourrait apparaître comme étant le bon dans cette histoire-là. Là. Si les syndiqués disent non, on n'en veut plus de ton affaire, quelle légitimité as-tu pour venir dire que ça a encore sa pertinence, cette
À ce
affaire-là,
moment-là, il
t'sais?
faudrait abolir la formule REN au Québec.
Ben oui, non, mais c'est ça que je te dis, mais c'est que si les gens veulent l'abolir, à l'intérieur des syndicats, t'sais, je pense que ça appartient aux syndiqués, cette question-là. C'est pour ça que j'ai pas trouvé.
Ça devrait pas passer par le politique, ça, abolir la formule REN. Parce que les syndicats, je veux dire, par le fait même, ils vont se défendre. C'est clair qu'ils vont se défendre. Il va y avoir de l'intimidation. Si jamais un syndiqué dit, moi, je veux abolir la formule REN, tu peux être sûr que le gars, il va falloir qu'il mette des caméras sur sa voiture pour être sûr de ne pas avoir les pneus crevés, là.
Non, mais c'est aux politiques de s'en occuper, mais c'est à condition que la majorité des syndiqués le veulent. Parce que si tu sondes les Québécois, qui ne sont pas tous syndiqués, et tu leur dis, êtes-vous pas au compte de la formule REND? Mais pour moi, ce n'est pas une bonne façon de mesurer si c'est pertinent. C'est aux syndiqués de le dire, ça. Fait que si les syndiqués sont majoritairement en faveur de l'abolition de cette formule-là, oui, le politique devrait s'en mêler. C'est d'ailleurs son rôle. Mais je me rappelle quand même, puis je veux t'entendre là-dessus, quand Jean Boulet a dit, nous, on rentre dans les syndicats, puis on s'en mêle aussi parce que ça n'a plus de bon sens. Je trouvais que les syndicats avaient quand même une cause, façon de parler, en disant que c'est un pouvoir, le pouvoir syndical, qui est à distinguer du pouvoir politique. Oui, tu devrais. Moi, je pense qu'ils ont un exercice de conscience à faire, et d'ailleurs, je pense qu'ils ne le font pas pantoute, là. Ils viennent de traverser un sommet sur le syndicalisme, puis je leur ai demandé c'était quoi les leçons de là-dedans, puis oh, c'est en train de mariner, on va vous revenir, on a des mois pour y réfléchir. Ouais, c'est déjà oublié, là. Ils ne sont pas là, là. OK? Mais je serais mal à l'aise de voir le politique entrer à pieds joints dans les syndicats. Je ne trouverais pas que c'est approprié.
OK. Moi, je pense qu'on pourrait faire certaines modifications. Tu sais, à Québec, c'est arrivé pendant le Festival d'été de Québec. Puis à Montréal, il y a quelque chose de différent. À Montréal, le transport en commun est considéré comme un service essentiel. Et à Québec, il n'est pas, le transport en commun n'est pas considéré comme un service essentiel, ce que je trouve assez particulier. Donc, pour faire avancer leur cause, les gens du RTC, donc le transport en commun qu'il y a à Québec, ont fait une grève et il n'y avait pas de transport en commun. Et alors que pour nous, à Québec ou à Montréal, c'est un service essentiel. Je veux dire, les gens doivent se déplacer. Pensons aux hôpitaux qui sont en ville. Bien, les gens n'ont pas de stationnement. Donc, l'infirmière embarque dans le service de transport en commun, monte là. C'est important d'avoir l'infirmière. Même chose pour les gens qui sont moins bien nantis, qui continuent de travailler. C'est important qu'ils puissent se rendre au boulot. Bien, c'est le syndicat qui a pris la population en otage pour faire plier le gouvernement. Dans ce cas-ci, qui était le gouvernement municipal, mais c'est un gouvernement quand même, je trouve que le syndicat a beaucoup trop de pouvoir. Faire plier un gouvernement en prenant la population en otage, c'est catastrophique dans une démocratie, là. Catastrophique.
Ça l'est, mais en passant, ça va peut-être te rassurer ou t'inquiéter, je ne sais pas, mais à Montréal, ça n'a pas changé grand-chose parce que des grèves, il y en a eu. Puis même si c'était un service essentiel, il y avait du service tôt le matin et le soir, mais dans la journée, il n'y avait rien pantoute. Donc des gens qui travaillent dans des entrepôts à Ville-Saint-Laurent, dans le nord de la ville, à 17-18 piastres de l'heure, j'en connais, moi, qui ont dû prendre le taxi pour aller travailler, puis revenir, aller-retour, puis se dire, je pense que ça m'a coûté de l'argent aujourd'hui, aller travailler. Je pense que je n'ai pas fait une scène aujourd'hui. Avec l'impôt, puis en plus, ma paye, c'est dans 2 semaines, puis ce n'est pas aligné avec mon loyer. À chaque fois, il faut que je demande à quelqu'un de m'avancer l'argent parce que la vie est mal faite. Donc là-dessus, je te dirais que je ne sais même pas s'il y a une vraie différence que ça fait. J'en connais aussi qui commençaient à travailler à 11 h le matin, OK, parce que leur shift, c'était de 11 h à 20 h, puis qu'il a fallu qu'ils se lèvent à 6 h pour prendre le métro à 7 h, parce qu'à 10 h, il n'y avait plus de service. Fait que tu arrives à 3 h à shop, puis tu n'as rien à faire, fait que tu tournes en rond, tu t'en vas au parc. C'est complètement absurde. Je veux dire, t'aurais pu rester chez vous puis compter sur justement ça. Mais moi, je suis pour ça. Tu sais, Yannick, je te dis juste que les solutions dans ce domaine-là, surtout dans ce domaine-là où il y a quand même une tradition syndicale au Québec, hein, c'est la vie, là. Je veux dire, on ne peut pas changer ça. Elles ne se trouveront pas à l'extrême. Puis on me dira qu'en ce moment, c'est un discours extrême qui a la parole et qui domine le discours syndical. Je sais, mais on ne lui répondra pas à ça par un autre discours extrême. Parce que sinon, je t'annonce ça tout de suite, tu as des centaines de milliers de personnes dans la rue qui paralysent le Québec. Et ça, ce n'est pas ce dont on a besoin en ce moment. Ça va prendre de l'eau dans le vin d'un deux verres. D'un deux verres. Je ne sais pas si d'un côté, par contre, on va vouloir en mettre. Sincèrement, je ne fais pas en ce moment confiance, pas présentement confiance aux gens qui sont à la tête des centrales syndicales. Je les trouve, honnêtement, je les trouve extrêmes dans leur façon d'aborder les choses. On l'a vu à Montréal il y a une semaine, là, dans la manifestation qui a eu lieu. Guillotine. Bon, moi, je n'ai pas capoté non plus, là, c'est
Non.
vieux comme le monde, là. Mais
Ça, c'est du bruit.
On a quand même vu
Ouais.
dans la sortie médiatique des centrales syndicales, on se dit ceci, mais tu sais, alors que ça aurait pu, tu sais, ils auraient pu aller plus loin. Écoutez, là, ça fait un an que c'est très, 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 très
Ouais.
compliqué, ce discours-là. On condamne, tiens, cette fois-ci, on condamne.
C'est ça. Ils ont condamné quelques jours plus tard, je pense que c'est 3 jours plus tard, là, mais au départ, ils se dissociaient. Je rappelle aux auditeurs que ce soir, on a le plaisir de passer la soirée avec Rémi Villemur. Il est animateur de podcast, il est animateur aussi au 99.5 Montréal et collaborateur sur Boulevard 102 dans l'émission de Jeff Fortin. Donc, dans l'émission On en jase, on fait une courte pause et on vient tout de suite.
Marceau le soir. Marceau le matin.
On va aller rejoindre la gauche de Max Larouche, le meilleur chroniqueur sportif au Québec, Charles Milliard. Bonjour, M. Milliard, comment allez-vous?
J'attendais plein d'introductions, mais pas celle-là.
Pour le troisième lien, qu'est-ce qu'on fait avec ça, M. Milliard? Mme Fréchette veut un troisième lien, mais un troisième lien payant.
Madame Fréchette a mentionné une option que j'ai mentionnée avant elle, c'est-à-dire que moi, je suis ouvert à un partenariat public-privé, effectivement, pour le troisième lien. Donc, si les Québécois nous font confiance, moi, je vais m'asseoir avec le secteur privé et voir s'il y a des possibilités de faire ça, parce que je crois à la boucle périphérique dans la région de Québec. Ça fait 5-6 fois que je viens ici, puis je vous dis la même chose.
Vous dites toujours la même chose.
Voilà.
C'est tannant, on peut pas vous challenger.
Bon.
Marceau, le matin, en semaine, 6h.
Ce segment d'émission, présenté par la Force Kia.
Kia Québec Sainte-Foy et Val-Bélair vous disent merci.
Kia est la marque la plus vendue dans la région.
À moins de 27 000 $, la K4 est le véhicule le moins cher au pays et il consomme très peu d'essence. Kia Québec Sainte-Foy et Val-Bélair domine grâce à vous.
Ce segment d'émission présenté par Chapeau Bell. Des produits de qualité à prix de liquidation. Des nouveautés chaque semaine. Québec, Saint-Georges, Lévis et chapeauben.com.
Si vous êtes concerné par la perte de cheveux, planifiez votre consultation sans frais chez Viva et obtenez une carte cadeau de 125 $. Pour en profiter, direction cliniqueviva.com.
Je suis avec Sarah de Mast Avocat. Sarah, parle-moi de la médiation familiale.
La médiation familiale, pour moi, c'est la clé du succès pour une séparation réussie. Elle propose des solutions concrètes qui peuvent être mises en place rapidement. C'est une façon de régler une séparation hors des tribunaux. Moins de conflits, moins de coûts et moins de tensions.
OK, et ça marche comment?
C'est des rencontres entre ex-conjoints avec un médiateur neutre. En plus, les gens bénéficient de quelques séances gratuites via le gouvernement.
Ah, merci Sarah, je comprends mieux.
Mast Avocat, là quand ça compte. Le hockey des séries, c'est vraiment le fun. Mais le hockey des séries chez Québec Brou, ça, c'est vraiment, vraiment le fun. En plus, 17 pour 10$ ces soirs de match. Québec Brou, pas pire, hein?
Depuis 80 ans, le groupe Germain est synonyme de confiance. Et l'achat de ton camion, c'est chez Germain Chevrolet Saint-Raymond que ça se passe. C'est le temps des gros rabais chez Germain Chevrolet. Profitez tôt à partir de 0% sur 72 mois à l'achat d'un Silverado ou Sierra 1500 et jusqu'à 8 000 $ de crédit au comptant. Ou louez-le à partir de 146 $ par semaine sur 24 mois avec 4 699 $ d'acompte. Le choix incontournable pour ton camion à proximité de Québec, ouvert le samedi, c'est l'équipe de Germain Chevrolet Saint-Raymond.
Profitez de l'événement cadeau du 50e chez Gréchy Scaff. Achetez une paire de lunettes complètes et recevez-en une deuxième en cadeau en plus d'une paire de solaires. Oui, deux paires en cadeau. Jusqu'au 16 août, Chantal Gravel, opticienne. Détails au greche-scaff.com.
On entend souvent l'expression « c'est ton jour de chance ». Mais chez JLD Lagu, ton concessionnaire John Deere, on t'offre 2 jours de chance. Parce que les 8 et 9 mai prochains, toute l'équipe a préparé le plus de tracteurs et d'équipements possibles. Parce qu'on veut que vous puissiez essayer un vrai tracteur John Deere. Robuste, efficace et polyvalent. Et si vous l'aimez, vous pourriez repartir avec. Pendant 2 jours, c'est l'événement « À vous le siège du conducteur ». Comme on dit maintenant, manque pas tes 2 chances. Parce qu'il n'y en aura peut-être pas une troisième. Pour plus de détails, va sur jldlagu.com.
Boulevard 102.1. 100% parler en semaine. Avec les meilleures émissions d'actualité à Québec. Leclerc Communication, le radiodiffuseur numéro 1 à Québec. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir.
Notre invité de ce soir, c'est Rémi Villemur. Il est animateur de podcast. Il est animateur aussi dans l'émission du soir à partir de 18h au 99.5 et collaborateur sur Boulevard 102.1. Rémi, je serais curieux de t'entendre sur Paul Saint-Pierre Plamondon et moi, je suis pas un péquiste là, et je suis pas un souverainiste pour l'instant. Mon cœur peut être gagné dans les prochaines années si on m'explique le plan, si on me dit que ça va être rentable pour moi, si on me dit que mes enfants vont avoir un meilleur futur avec un Québec souverain. Mon cœur peut être acheté sans aucun problème dans le dossier de la souveraineté. Mais Paul Saint-Pierre Plamondon, bien que je ne voterai pas probablement pas pour lui actuellement, m'a grandement impressionné quand il a fait sa sortie médiatique en disant « Regardez, il y a un sondage qui dit qu'on est en avance, on est très heureux de ça, mais il y a une portion du sondage qui dit « Si jamais je mets la souveraineté de côté dans un premier mandat, je pourrais aller jusqu'à 39 ou même 40 % des intentions de vote, mais je ne peux pas faire ça parce que ce serait mentir aux Québécois. » Moi, Rémi, là, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu un politicien sous cet angle-là et il a gagné une partie de mon cœur.
Puis c'est exactement pour ça qu'il a fait ça. C'est pour gagner le cœur de gens comme toi. Pas gagner mon cœur à moi. Parce que moi, je veux dire, je suis un souverainiste. Moi, je vais voter pour le parti qui est le mieux placé pour faire la souveraineté. Je voterai QS. Si QS était... Eh oui, je suis comme ça. Je suis comme ça. Ça ne s'explique pas. Mais Paul Saint-Pierre Plamondon, conseillé par plusieurs personnes, s'est assis plusieurs fois dans les derniers mois et... je pense, a au moins eu la décence de poser la question à ses conseillers, en savoir, bon, écoutez, moi, mon idée est faite, mais qu'est-ce que vous me conseillez? Puis on lui a probablement dit, bien, il y a des gens comme Yannick Marceau qui ont besoin de savoir que toi, Paul Saint-Pierre Plamondon, tu vas y aller all-in parce que tu es convaincu, puis parce que c'est sexy quelqu'un de convaincu. Puis parce que ça donne aussi la conviction que tu sais où tu t'en vas, exact. Quelqu'un de convaincu. Et c'est à ces gens-là qui s'est adressé en disant je continue. C'est pas aux gens qui, de toute façon, leur vote est sécurisé là-bas, tu comprends? Ouais. Eux autres, je veux dire, Paul Saint-Pierre Plamondon reculerait là-dessus qu'ils auraient quand même le vote, tu comprends? Les souverainistes vont voter pour le parti souverainiste qui promettent ou non, ouais, un référendum dans un premier mandat.
Je comprends. Mais donc, ça m'a impressionné de voir que je suis un peu désabusé de la politique, là, puis je pense que tu vas le comprendre parce que je vais te dire. Ça m'a impressionné de voir qu'il y avait encore des hommes et des femmes avec des convictions profondes, avec des valeurs fondamentales. Puis eux sont pas là pour le glamour sont là pour réaliser une mission. J'ai Maître Bellemare comme collaborateur dans mon émission qui vient souvent me voir. Maître Bellemare, c'est un individu avec des convictions, avec des valeurs fondamentales. Il s'est lancé en politique pour abolir le no fault. Finalement, après quelques mois, Jean Charest il a dit « Ouais, Marc, c'est bien le fun, là, mais on l'abolira pas le no fault. » Et Maître Bellemare a dit « Parfait, ben moi, je quitte la politique », alors qu'il était ministre de la Justice. Puis c'est la raison pour laquelle il a gagné mon cœur, Maître Bellemare. Puis on fait des chroniques depuis ce temps-là. Ça fait plus qu'une décennie que je fais des chroniques avec Maître Bellemare, parce que c'est un individu avec des convictions profondes puis des valeurs fondamentales. J'ai l'impression, t'en connais aussi des politiciens, j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins de cette race-là de gens avec des convictions profondes et des valeurs fondamentales qui sont prêts à aller à la guerre coûte que coûte pour améliorer le sort des Québécois.
Je sais pas s'il y en a de moins en moins. Je sais que les époques font les grands hommes et les grandes femmes, là, pour être bien compris. C'est les époques, puis l'époque qu'on vit en ce moment, elle commence à être excitante. Là. Parce qu'on va quand même se rappeler une affaire, là, il y a 5-6 ans, il ne passait pas grand-chose au Québec. Là. Il y a 10 ans non plus. Et là, il commence à se passer des affaires, puis c'est pas tout totalement de notre sort. Il y a des trucs qui se passent au sud de la frontière qui rendent finalement le sort du Québec questionnable. Hein? On se dit, OK, ben écoute, il y a des guerres aussi. Tu sais, quand je dis que c'est intéressant, c'est qu'il y a un intérêt. Il se passe des affaires, il y a des choses qui sont remuées. Des fois, c'est négatif, mais il se passe quelque chose. Donc, normalement, il va y en avoir de plus en plus de ces gens-là pour un certain temps. Mais Paul Saint-Pierre Plamondon, il faut être précis, par contre, là, parce que le vrai test, il n'est pas encore passé. Tu sais, on n'est pas en campagne électorale. Quand on sera en campagne électorale, là, on verra s'il va tenir son bout. S'il ne tient pas son bout, il faudra alors qu'on remette en question tout ce qu'on a pensé de lui dans les derniers mois.
Il ne peut plus reculer.
Il peut reculer. Techniquement, il peut le faire. Physiquement, c'est possible encore de le faire. Je veux dire, il peut arriver en campagne au troisième jour, puis se faire convaincre par quelqu'un qui lui dit recule parce que sinon on ne prend pas le pouvoir.
Okay, mais il va expliquer
là, la vraie nature de l'homme.
C'est ça. Il va expliquer ça comment aux Québécois?
Ben, je veux dire, s'il y a peut-être possibilité de le faire. Moi, c'est pas moi qui ai les bons conseils à lui donner là-dessus parce que j'ai jamais pensé à ça. Puis je voudrais jamais penser à comment convaincre le premier ministre du Québec en devenir, de reculer sur sa promesse de tenir un référendum. Mais c'est possible de faire ça. C'est faisable. Il y a des compagnies qui font leur pain et leur beurre en produisant des lignes de communication. Ça se peut, là. Ça se peut. Une firme de relations publiques serait capable de te pondre quelque chose d'à peu près convenable, Yannick. T'sais, fait que c'est possible d'aller là. Puis on verra s'il y va. Fait que moi, pour le moment, je te dirais que je suis impressionné. Mais c'est le vrai test de la campagne électorale qui va nous permettre de déterminer si sa ligne qu'il tient mordicus depuis tout ce temps-là, il va la tenir encore une fois. T'sais. Puis on n'est pas habitué, tu as raison, on n'est pas habitué. On les voit peut-être moins. C'est ça l'affaire. Peut-être qu'on peut se rejoindre ici, là. Je ne sais pas s'il y en a de moins en moins, mais on les voit de moins en moins.
Ben, tu parlais de personnes humaines tantôt, un animateur humain ou une animatrice humaine qui disait, savez-vous quoi, j'ai réfléchi à ça hier soir, on a parlé de tel dossier à notre émission, j'avais cette opinion-là, je me suis trompé et voici ce que je pense maintenant. Moi, je me suis retrouvé dans Paul Saint-Pierre Plamondon. Je voyais mes valeurs fondamentales qui sont les mêmes que les siennes, c'est-à-dire d'être droit et fier, puis de ne pas aller à l'encontre de tes valeurs ou de ton objectif de vie parce que là, tu as une opportunité. Non, non, on y va, c'est ce qu'on pense, on fonce. Moi, je salue moi cette audace-là. Je peux pas croire qu'il va reculer, puis il reculera pas, puis je te gage 2 $.
2 $? Bon, 2 $. Ben, écoute, 2 $, j'ai ça, moi. Fait que le pari fonctionne.
All right. Rémi Villemur, je te laisse aller à tes trucs. Pour les gens qui veulent avoir accès à tes merveilleux podcasts, on peut les retrouver à quel endroit sur YouTube?
Il reste du monde. Donc, on écrit sur YouTube, il reste du monde, puis ça sort. Sinon, on est sur Spotify, Apple Music, on est partout. Ça marche vraiment bien. J'adore ce projet-là. Je rencontre toutes sortes de gens, puis on prend du temps. Du temps, c'est précieux. On a pris du temps ce soir-là. On apprend à se découvrir. C'est juste le temps qui permet ça.
Donc, et puis c'est des longues entrevues. Moi, j'adore le produit que tu as amené sur YouTube. J'adore aussi le produit que tu fais au 99.5 à Montréal à 18h le soir à Montréal. Et c'est un plaisir aussi de t'entendre sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec une fois de temps en temps. Je te souhaite de passer une belle soirée, puis on se reparlera peut-être dans quelques semaines.
Merci Yannick.
Rémi Villemur, merci beaucoup. Je souhaite de passer une agréable soirée et on se reparle demain. Salut tout le monde. Bye bye.
Marceau le soir.
Ce segment d'émission présenté par la Force Kia.
Kia Québec Sainte-Foy et Val-Bélair vous disent merci.
Kia est la marque la plus vendue dans la région.
Le nouveau EV5, c'est votre VUS électrique à moins de 46 000 $. Fini les factures d'essence. Kia Québec Sainte-Foy et Val-Bélair domine grâce à vous.
Votre avis est essentiel pour nous à Boulevard 102.1.
On veut vous entendre sur notre programmation, nos chroniqueurs, nos segments et nos animateurs.
Dites-nous ce que vous aimez et ce que vous aimeriez entendre.
Pas besoin d'être gêné, on veut le vrai feedback.
Rendez-vous sur le blvd.fm et répondez à notre sondage sur votre appréciation de la programmation. Vous pourriez gagner une carte cadeau de 250 $ chez Chaloux.
On veut votre avis parce que Boulevard 102.1, c'est votre radio.
Boulevard 102.1, une radio d'ici.
Aubaine, des produits de qualité à prix de liquidation. Des nouveautés chaque semaine. Québec, Saint-Georges, Lévis et chapeaubaine.com. Chapeaubaine, des marchands de bonheur.
Le printemps est arrivé chez Poliquin Décor. Venez profiter de nos promos. En boutique ou à domicile, nos experts vous accompagneront pour transformer votre intérieur en un foyer chaleureux avec rideaux, stores, toiles, papier peint, peinture. Poliquin Décor, l'expérience qui fait toute la différence.
Achetez un bon système de chauffage ou climatisation, ça peut vite devenir compliqué. Choisir le bon modèle, comparer les prix, comprendre les subventions. Ouf! Hey, chez EnviroConfort, on vous rend ça plus simple et on va jusqu'à vous faire vivre une vraie expérience pour l'achat de votre thermopompe. On vous conseille, on trouve le meilleur équipement pour votre maison, on s'occupe de l'installation et même de vous montrer comment ça marche. Bref, vous vous occupez de rien, sauf d'être bien chez vous. EnviroConfort, le confort sans le moindre effort.
Le hockey des séries, c'est vraiment le fun. Mais le hockey des séries chez Québec Brou, ça, c'est vraiment, vraiment le fun. En plus, 17 pour 10$ les soirs de match. Québec Brou, pas pire, hein?
Le caucus. Du lundi au jeudi midi, ne manquez pas les explications simples de dossiers parfois complexes. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans Le caucus. Du lundi au jeudi midi, dans On en jase.
Boulevard.
102.1. Bourbeau, pour que ce soit beau.
Chez Gérard Bourbeau et fils, l'expertise, le souci d'en offrir toujours plus et les conseils de qualité s'acquièrent avec les années. La passion, elle, nous habite depuis 86 ans. Votre centre jardin Gérard Bourbeau et fils, c'est le plus grand choix de végétaux à Québec. Pour la fête des mères, offrez des jardinières de fraises ou de fuchsia ou encore de magnifiques plantes fleuries en pot. Première avenue à Charlebourg, gérardbourbeau.com.
Bourbeau, pour que ce soit beau. Pour que ce soit beau.
Depuis 80 ans, le groupe Germain est synonyme de confiance. Et chez Germain-Nissan Donnacona, ça se ressent à chaque visite. Durant l'événement Mettez-nous au défi, louez le Nissan Rogue 2026 pour 99 $ par semaine, zéro comptant location 60 mois. Ou encore le Nissan Kicks 2026 à partir de 89 $ par semaine, location 60 mois, zéro à compte. 80 ans d'expertise, ça fait une différence sur votre expérience. Germain-Nissan Donnacona, c'est le seul concessionnaire Nissan ouvert le samedi.
Boulevard.
Québec.
102.1.
Ville de radio. À l'écoute des citoyens. Notre programmation 100% parlée en semaine est là pour vous. 6h, Marceau le matin avec Yann Marceau, Max Larouche et Jeff Fortin. 7h55, le pit stop avec Denis Gravel. 10h, le point de Max, maintenant en duo avec Catherine Bachand. Le midi, on jase avec Jeff Fortin, Pascal CV et le caucus avec Antonine Iaccarini. 14h, Gravel dans le retour avec Denis Gravel, Véronique Bergeron et Audrey Pinchot. 18h, Marceau le soir, Boulevard 102.1. Maintenant 100% parlée en semaine.